Salomon, c'est plutôt un règne qui est positif. Je l'ai noté, le trône d'or. Et on a vu néanmoins que dès le premier chapitre, c'était chaotique, la manière dont il a accédé à la succession après un grand roi, le roi David. Et jusqu'à présent, les promesses que Dieu a faites à David, qu'une lignée royale sera à jamais sur le trône, est là, puisque Salomon, le fils de David, accède au pouvoir et au trône. Quelques remarques avant encore la lecture. Nous, on n'est plus dans un contexte d'exil, de chaos. Quoique, on est après la croix. On est après Jésus-Christ, après ce qu'on vient de chanter, l'autorité de Jésus-Christ. Après la résurrection, après l'élévation. Et la parole de Dieu, et on vient de le chanter, nous dit que Jésus est le digne successeur du roi David, l'héritier du trône éternel. Et on a chanté un trône stable, un trône de justice, de paix, Jésus désigné comme roi. Et Matthieu 1, vous avez toute la lignée généalogique de cette succession du trône. Et c'est pourquoi chaque page, quelque part, de ce livre des rois, nous ramène une réflexion aussi sur comment Jésus est roi. Et Salomon nous présente une image d'un roi, humain, et bien évidemment avec bien des imperfections. Je crois qu'elle nous appelle à méditer sur ce texte. J'invite Wendy à lire le texte avec nous, c'est le chapitre 2. Alors écoutons la parole de Dieu. Donc 1 Roi, chapitre 2. Quand on regarde notre monde aujourd'hui, difficile d'avoir confiance dans ceux qui gouvernent. Les scandales, les promesses trahies ou non tenues, les décisions intéressées, les intérêts personnels, tout cela nous fait rendre méfiants, cyniques parfois. Où sont ces dirigeants justes, droits, ces rois sages, ces hommes intègres qui nous gouvernent? On a ce désir d'un leadership, d'avoir des conducteurs justes, bon, et c'est pas nouveau. L'humanité cherche un pouvoir bon, quelqu'un à suivre. Mais même les meilleurs, on le sait, ont leur fragilité. Cette désillusion dit quelque chose de profond sur nos aspirations de notre conscience. J'attends à être conduit par quelqu'un de bon, de droit, de juste. Un roi parfait, pourrait dire, sage et bon, pour le bien de chacun. Et avec ce livre de rois, c'est justement ce que Dieu prépare pour nous. Le livre des rois fait partie de cette réflexion de nous montrer, de nous présenter un roi de justice. Et ce chapitre 2 participe à une étape clé de la promesse. Dieu établit un royaume de justice, de paix. Je le disais tout à l'heure, il le bâtit sur le successeur, Jésus-Christ. Un trône qui s'affermit à travers quelque chose de sanglant, la croix, confirmée par la résurrection, et qui s'affirmera pleinement quand il viendra juger le monde avec justice. C'est solennel et sérieux. Je pense que, avec cette longue lecture, peut-être vous l'avez lu chez vous, mais vous saisissez un peu la gravité de ce texte. C'est pas facile. Il y a la mort qui est présente, partout, tout au long de ce chapitre. Ça commence avec la mort d'un roi, le roi David. Et après, il y a un certain nombre d'exécutions de personnes importantes, d'ailleurs, du peuple. On fait un tri entre fidèles et rebelles. Et au premier abord, c'est vraiment un texte qui n'est pas facile. Je dois vous le reconnaître. Avec nos yeux, notamment du 21e siècle, d'occidentaux, on se demande, est-ce que Salomon, dans ce texte, agit bien ou pas? Est-ce qu'il exerce de la justice ou est-ce qu'il fait une vengeance politique? Était-ce nécessaire, ces exécutions? Est-ce que c'est un bon départ? On est au début du règne. Est-ce que c'est un bon départ ou pas? Certains commentateurs sur ce texte vont vous dire que Salomon fait une purge politique. Il fait des assassinats politiques. Il fait un tri juste pour asseoir son règne. Mais je sais pas vous, hein, mais à la lecture de ce texte, et si vous prenez le temps, moi j'ai un certain malaise, quand même. Ça me dérange. Je vous rappelle, hein, le premier chapitre nous présentait cette question, mais qui sera sur le trône? Parce que David était à la fin de son règne, c'était un peu instable, et il y avait de la stabilité. Et ce chapitre 2, en fait, pose la question autrement, est-ce que ce trône sera solide? Et la réponse est dans le texte, parce qu'il y a un mot-clé qui revient, vous l'avez peut-être entendu, en hébreu c'est « koun », qui signifie « être établi », « rendre ferme », affermi, stable. Quatre fois dans le texte, on a ce mot au verset 12, au verset 24, au verset 45 et 46. C'est le fil rouge de ce chapitre. C'est le trône de Salomon est-il stable? C'est le titre. Un trône affermi. La stabilité du trône de Salomon. Et la grande question autour de ça, mais c'est comment ce trône est rendu stable? Comment Dieu affermit ce trône? Et vous avez vu que il y a deux gros éléments, deux grosses parties dans ce texte qui répondent en fait à ces questions. Comment Dieu stabilise un roi? Et on le voit dans la structure, il y a l'obéissance à Dieu et l'exercice de la justice. Avant de parler d'exécution, de complot, de justice, le texte nous montre d'abord que le roi est appelé à quoi? À obéir. On a les versets 1 à 12, un roi qui obéit à Dieu. En suivant le déroulé de notre texte, hein, on voit que on est dans une co-régence. Deux rois sont en place, mais David est au seuil de sa vie. Il est en train de mourir. On dit ça vite. Hein. Il est en train de rendre ses derniers soupirs. David se sait arrivé au bout du chemin. Il est conscient des promesses de Dieu qui lui ont été données. Regardez simplement tous les psaumes. Il y a énormément de promesses qui sont données à David et à sa royauté et à sa descendance et à sa lignée, à son trône. Regardez simplement ce que Dieu a dit à David bien des années auparavant. On lit ça dans 2 Samuel 12. Quand ta vie prendra fin, quand tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. On est dans le même vocabulaire. J'affermirai son règne. Pour David, c'est clair, les promesses qu'il avait reçues de Dieu pour Salomon, son fils, elles sont là. Et alors, on est dans cette solennité, là, au début du chapitre, de là, il sait que les promesses de Dieu sont présentes. David approchait du moment de sa mort et il donne des instructions suivantes à son fils, hein, c'est le premier verset. « Je m'en vais par le chemin commun à toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. » Imaginez-vous, vous êtes face à la mort. Hein. C'est quelque chose de sombre, ce moment-là qui est en train de se passer, que l'esprit humain peut contempler, parce que je ne sais pas comment vous, je ne sais pas comment je le serai, mais face à la mort. Mais David, il pense aux promesses de Dieu qu'il transmet à son fils. Voilà les dernières paroles d'un roi mourant. Et il dit, voilà quel roi Salomon et tu es appelé à être. Et David parle, vous l'avez remarqué, du caractère de cet homme, et des actions qu'il doit entreprendre. Et il y a quelques surprises, bien évidemment. Les versets 2 à 4, il est question du caractère du roi. Et vous voyez dans ces quelques versets, quelque part, un cap, en fait, des clés, pour d'ailleurs l'ensemble du livre des rois. Et si on devrait résumer, David est en train de dire soit un roi fort, avec un positionnement clair, courageux, viril, fort comme face à un combat, mais dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans l'obéissance à l'éternel ton Dieu, dans l'obéissance à la voix de Dieu. La stabilité de ton trône, mon fils, c'est ton attachement à Dieu. Et David la parle de l'obéissance aux ordres, à garder ses prescriptions, ses règles, la loi de Moïse. En fait, quelque part, c'est à l'ensemble de tout ce que Dieu a déjà dit. C'est l'obéissance à Dieu. Je viens de l'évoquer, hein, mais on est avec une des clés de lecture de ce livre du roi. Quand le roi est pieux, quand le roi obéit à Dieu, la nation est pieuse. C'est un raccourci, mais la nation est conduite dans la bonne direction. Quand un roi prie, le peuple prie. Quand un roi obéit à Dieu, le peuple écoute Dieu. Un roi qui reconnaît qu'il règne sous le règne d'un roi des rois. Quand David, le berger, a écrit le psaume « L'Éternel est mon berger », David reconnaît qu'il y a un berger au-dessus de lui. Lui, il est le berger de son peuple, mais il reconnaît que Dieu est le roi des rois. Attache-toi à Dieu, mon fils. Obéis à sa direction. Écoute Dieu. Vous avez probablement déjà entendu cette réflexion de dire « Écoutez Dieu !» C'est pour les faibles de croire qu'il y a une religion, de croire que quelqu'un veut te dire quelque chose pour ta vie. C'est un signe de faiblesse, de fragilité. Tu as besoin de t'accrocher à quelque chose. On est des chrétiens, on a réfléchi autour du bâtiment, et nous, pour réfléchir autour du bâtiment, qu'est-ce qu'on fait? On prie. C'est pas logique. Pour les gens du monde. C'est ringard, c'est pas audacieux de prier, de dépendre d'un Dieu. Mais on sait qu'en tant que croyants, il nous faut du courage de tenir ferme dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans l'attachement à Dieu face à l'incrédulité du monde. C'est contre-culturel. C'est contre l'orgueil, c'est contre notre moi qui sait de se dire, je vais écouter ce que Dieu a à dire pour ma vie. Et David dit à Salomon, écoute, prends compte ce que Dieu a dit pour ton peuple, pour toi. On n'a pas le temps de regarder tout ce que cela voudrait dire pour un roi de se dire, j'écoute ce que Dieu dit. Il y a plein de choses. Mais une réelle soumission du roi qui prend compte ce que Dieu a dit. Et on le voit dans ce texte, le fruit de cette obéissance, c'est quoi? C'est la réussite. Dieu tiendra parole. Toi et tes fils, si vous obéissez, il n'y aura jamais de trône vacant. Écoutez, suivez Dieu et les choses iront dans le bon sens, dans la bonne direction. Vous allez dire, ça c'est l'Ancien Testament, hein. Mais on a tous en tête peut-être le passage où Jésus parle de cette grande parabole avec celui qui bâtit sur le sable. Matthieu 7, j'ai juste mis quelques versets. Toute personne qui entend ces paroles, qui entend la parole de Dieu, que je dis et les met en pratique, je les compare à un homme qui est prudent, qui a construit sa maison sur le rocher. C'est stable, la pluie, la tempête s'acharne, mais sa maison est stable, sa vie elle est stable. Celui qui écoute Dieu, sa vie elle est stable. Rappelez-vous le crash. On est dans le crash du peuple. Massacré, déporté, exilé, éparpillé. On a quelque chose là. On a un voyant. Probablement défectueux. Les rois ont failli dans leur écoute de Dieu, dans leur obéissance de Dieu, dans leur soumission à Dieu. Et le peuple a suivi. Ils n'ont pas écouté la bonne voix. Pourtant, averti, si vous obéissez, nous dit David, dit Dieu à travers David, si vous me laissez de côté, vous irez à votre ruine. Vous irez à votre ruine. Et alors, on pourrait se dire, mais alors, du coup, si on est là, dans cette situation du peuple, où il n'y a plus de roi, il n'y a plus de royaume, il n'y a plus rien du tout, est-ce que c'en est fini avec les promesses qui ont été données à David, qu'il y aura éternellement un successeur sur le trône? Comment les promesses de Dieu peuvent donc s'exécuter si nous, on a désobéi, si le roi déraille? Est-ce que c'est un engagement conditionnel ou inconditionnel? Et là, c'est intéressant de regarder ce que Dieu a dit exactement à David. Et je reprends ce passage de 2 Samuel. « Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Je serai pour lui, donc c'est Dieu qui parle, un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai, avec le bâton des hommes, avec les coups des humains, mais je ne lui retirerai pas ma grâce, comme je l'ai fait avec Saül quand j'ai écarté de ton chemin. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi, ton trône sera affermi pour toujours. On voit déjà là que la fidélité de Dieu à l'égard de son roi ne dépend pas de son obéissance, mais de la grâce. Les bénédictions promises par Dieu ne sont que grâce. Grâce dans la désobéissance. Patience de Dieu. Fidélité de Dieu. D'un côté, la désobéissance des rois a conduit à ce que le royaume historique d'Israël a été détruit. C'est les conséquences pour les premiers lecteurs. De l'autre, malgré les échecs de tous les rois qui vont se succéder, on a aujourd'hui, nous qui sommes ici, Jésus qui règne, on l'a proclamé dans les champs, au siècle des siècles, on lit ça dans Apocalypse, on voit la fidélité de Dieu, la grâce de Dieu. David l'a vu. Les psaumes qu'il nous a laissés montrent qu'il avait discerné que Dieu établirait à jamais un roi éternel, bon, juste. On est de ce côté-ci de l'histoire. Un roi qui obéit à Dieu. Jésus-Christ a obéi comme personne à la parole de Dieu. La victoire fut parfaite. Là où les rois humains ont failli, là où chacun de nous a failli dans son obéissance à Dieu, Jésus le roi n'a pas failli. Il a été dans l'obéissance parfaite au roi des rois, son père. Obéissance. Dans les versets 5 à 9, David passe la main à son fils et lui donne des dossiers très précis qu'il a besoin de régler. Trois points, Joab, tu dois régler le cas de Joab, le général en chef. La famille de Barzillai, tu dois lui en remontrer de la faveur. Et sur Shimei. C'est un peu bizarre, moi je me suis dit, en préparant, je me suis dit, est-ce qu'il a des comptes à régler qu'il n'a pas pu faire de son vivant? Je garde la réflexion pour la deuxième partie tout à l'heure. Mais il demande à son fils d'agir avec justice et grâce et patience et sagesse. Ce premier paragraphe, cette première portion se termine avec une épitaphe, hein, verset 12, 10 à 12, je relis. David se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré dans la ville de David. Le règne de David sur Israël dura 40 ans, il régna 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem, et Salomon s'assit sur le trône de son père David, et sa royauté fut solidement établie. Là, on a le refrain. Et ce type de phrase va aussi jalonner tout le livre des rois. C'est une des clés. Roi après roi, règne après règne. Et la manière dont les rois vont être mis en terre va donner des indications sur la manière dont le règne se sera passé. Un roi qui se couche paisiblement, dont on va le coucher ou l'enterrer dans le caveau familial, dans la ville royale, c'est plutôt bon signe. Un roi qui va être enterré en catimini ou pas enterré du tout, les voyants sont pas bons. Ici, les voyants sont en vert, la royauté de Salomon est stable. Sa royauté fut solidement établie. Mais est-ce qu'il va vraiment tenir? C'est un peu la question, hein. Et je vous propose de regarder dans une deuxième partie les premières décisions de Salomon. Moi, j'ai donné un roi qui rend justice. Et c'est la partie qui nous trouble, la plus, je pense. On voit Adonija, donc c'est le frère de Salomon, hein, frère aîné, exécuté, celui qu'on avait retrouvé au chapitre 1. On a Abiatar, versets 26 et suivants, un prêtre qui est dépouillé de sa responsabilité et qui est mis en exil. On voit Joab qui est tué parce qu'il avait pris le parti du frère aîné. Et enfin, verset 36, Shimei qui est frappé aussi également à mort. Trois morts et un exilé. On est un peu dans une tragédie là. Et c'est ainsi que Salomon installe sa royauté. Il fait couper des têtes. Imaginez lire ce type d'histoire avec Jésus qui assoit son règne en coupant des têtes. Ce texte dérange, hein. Et c'était mon cas lors de mes premières lectures. N'est-ce pas la pire forme politique du pouvoir? Éliminer vos rivaux pour asseoir et consolider votre pouvoir. Vos ennemis politiques, vous les réduisez en silence. Et ensuite, donc, vous êtes en sécurité sur votre trône. Est-ce que c'est pour cette raison que le trône est affermi? Est-ce que Salomon, il commence à mal agir? Je disais tout à l'heure, hein, plusieurs commentateurs sur ce texte le suggèrent. Je ne le partage pas, c'est mon avis. Vous rajoutez à cela un homme de main, Benaja, vous l'avez entendu, fidèle homme de main de Salomon, qui exécute les ordres du roi. C'est lui qui fait le sale boulot. Pour nous, en Occident, lire ce type de texte, ça heurte, ça dérange. Quelqu'un qui qui veut asseoir son autorité, qui élimine tout ça. D'ailleurs, si vous êtes un peu cynique avec la parole de Dieu et l'Ancien Testament en particulier, vous dire, bah, Dieu est pareil, n'est-ce pas? C'est un juge tyrannique qui valide des massacres de peuples entiers, qui justifie la mort, qui justifie la peine de mort, qui justifie que, voilà, des nations s'en prennent à d'autres. Et je suis conscient que cette portion du texte peut déranger. Mais si nous prenons les lunettes de l'Écriture, de la parole de Dieu, on y découvre autre chose, une cohérence. Je l'évoquais la dernière fois, le concept même de roi peut nous déranger aujourd'hui. C'est déjà pour nous pas évident à comprendre. C'est quoi un roi ? Alors on va les transposer dans notre monde et on va se dire, si vous êtes du côté Angleterre, vous êtes peut-être en tête le roi Charles III ou la reine Elisabeth II qui a marqué l'histoire britannique de son empreinte. Vous avez d'un côté, peut-être de l'autre côté, vous avez la Corée du Nord par exemple, Kim Jong-un, tyran absolu, exécution publique, qui ne tolère aucune opposition, avec une surveillance totale. On pourrait en citer d'autres, je pense, contemporains, sans rentrer dans l'histoire passée. Jésus est roi, on vient de chanter. Je crois que c'est autre chose que ces deux exemples de notre monde. Et un roi, chapitre 2 nous éclaire sur ce qu'est un roi, notamment. Un roi selon Dieu. Un roi déjà qui écoute Dieu et pas son ego. Et ce règne de Salomon pose des éléments pour comprendre aussi la royauté de Jésus. Un roi biblique, un roi selon le cœur de Dieu, a le pouvoir sur ses ennemis. Un roi selon le cœur de Dieu a le pouvoir sur ses ennemis. Vrai ou pas ? Je cite juste un psaume. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, donc c'est Dieu qui parle à David, « Assieds-toi à ma droite, et d'ailleurs, comme image à Jésus-Christ, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » La suite de ce psaume 5-6, « Le Seigneur est à ta droite, il écrasera des rois, le jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations, tout est rempli de cadavres, il brise des chefs sur toute la terre. » L'image est celle d'un gladiateur où l'on vainc son ennemi, où l'on pose le pied sur la tête de son opposant pour dire « j'ai gagné ». Opportuniste ou justice ? Et tout au long de la Bible, on a cette pensée que le futur roi, le Messie attendu, c'est-à-dire Jésus-Christ, jugera et que ses ennemis seront exécutés. Ça, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce qui se passe dans ce texte avec Salomon. Et ça nous dérange, ça nous met mal à l'aise. N'est-ce pas ? On pourrait se dire, mais moi je crois que c'est le fait de manœuvre pour consolider son leadership en éliminant ses rivaux. Mais le texte nous montre, et je vais simplement relever deux, trois trucs, qui montre que Salomon, quelque part, est sage, juste et nécessaire dans sa situation, et voulu par Dieu. C'est vrai que le narrateur et celui qui a écrit ce texte ne nous laissent aucun commentaire de se dire « est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ?» Moi, j'aurais aimé une phrase de dire « ça a été, il a mal fait, il a mal agi ». Le narrateur nous dit simplement que la royauté de Salomon a été affermie. C'est juste. Salomon n'assassine pas juste ses adversaires. Premièrement parce que tout commence avec les instructions de son père, sur son lit de mort. David n'aurait pas besoin d'éliminer ses rivaux, il n'a pas de réel mobile politique. Mais on comprend qu'il a, on comprend qu'il a une préoccupation d'une justice qui est inachevée. Joab a fait du mal, Shimei est un traître. Et pour les deux, David fait appel à Salomon pour qu'il agisse. Vous l'avez peut-être entendu avec sagesse. Verset 6, « Tu agiras conformément à ta sagesse. » Verset 9, « Ne le laisse pas impuni car tu es un homme sage. » Et en fait, dans l'Ancien Testament, il y a ce principe que les méchants doivent mourir jugés. Ils doivent avoir une mauvaise mort, une justice avant la mort. Le méchant mérite une mort horrible. C'est un peu le concept de l'Ancien Testament. Et dans ce livre des rois, on va rencontrer des morts atroces. Et l'autre concept, c'est de se dire que les justes doivent avoir une mort digne. La mort révèle votre obéissance et votre caractère devant Dieu. Je sais que ça dérange quand on lit comme ça dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, il y a un peu un changement radical parce que nous, on attend le jugement final où la justice sera faite. L'une des plus grandes injustices, vous êtes d'accord, c'est quand des gens méchants meurent tranquillement et s'en tirent impunément. Ça nous dérange. Se dire, on a l'impression, ils ont une... Mais le chrétien n'est pas insatisfait. On le sait qu'au jour de la résurrection, au jour du jugement, Dieu fera en sorte que justice sera faite. Ça, c'est la parole de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, on attend, et après Jésus-Christ, on attend avec impatience ce jour du jugement. Et dans l'Ancien Testament, on se préoccupe que cette justice soit rendue ici et maintenant. Il y a quelque part un parallèle. Et Salomon, installé sur le trône, doit exercer sa justice avec sagesse. Ce sujet de la sagesse de Salomon, on en parlera la semaine prochaine, hein, avec les chapitres suivants. On est un peu dans une bande-annonce ici. La sagesse, c'est pas juste être intelligent ou rusé, mais il s'agit de faire ce qui est juste, bon et moralement correct. C'est de se dire comment je répare les injustices, comment je punis les coupables. Et David dit, tu es sage, je te fais confiance pour rendre justice. Je te laisse donc Joab, un criminel de guerre, je te laisse Shimei, un traître, que tu règles cette affaire par souci de justice. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément qui nous fait penser que c'est un roi qui exerce justice, c'est qu'on voit que c'est proportionnel. Salomon n'est pas en train de juste éliminer tuer pour tuer. On l'a entendu avec Abiathar, par exemple, un opposant, verset 26. Il faisait partie des conspirateurs. Salomon lui retire quoi ? Sa fonction de prêtre et l'exil au loin. Il n'atteint pas à sa vie. D'ailleurs, le texte nous dit même que la parole de Dieu fut accomplie par cet exil, par cette mise à l'écart. Si Salomon cherchait à asseoir et à être politiquement correct, il aurait pu l'éliminer simplement. Le jugement de Jésus sera le même. On dit à de nombreuses reprises que Jésus traitera les gens selon leurs péchés. Abiathar a eu un certain nombre de faits héroïques qui méritent que sa vie soit sauve. C'est un deuxième élément. Troisième élément qui montre que c'est un roi qui exerce avec justice, il y a la question de la seconde chance. La justice de Salomon offre une seconde chance. Il y a une opportunité de vivre droitement. Il y a une opportunité de vivre droitement dans la soumission au roi qui est en place. Là, on a Adonijah, hein, qu'on a déjà découvert il y a 15 jours, dans le premier chapitre, ce fils aîné qui était en rébellion, qui avait attiré des sympathisants. Et alors David a pris sa responsabilité, et là d'un coup Adonijah découvre que c'est pas lui le successeur, mais c'est Salomon, et qu'est-ce qu'il avait fait ? On avait vu, il s'était taillé, il avait eu peur, il y a tout le monde qui a parti, et puis il était allé courir au temple, il avait accroché cet autel, et il avait dit « n'atteins pas ma vie », et Salomon, qu'est-ce qu'il lui avait dit ? Je relis le verset 52, c'est beau, hein ?« S'il se comporte en homme de valeur, pas un de ses cheveux ne tombera de sa tête. » Ça fait écho d'ailleurs avec Jésus là. « Mais s'il trouve en lui de la méchanceté, il mourra. » S'il se comporte en homme droit, en homme de valeur, en homme juste, c'est pas un discours de quelqu'un qui élimine ses rivaux. Là, il y a une miséricorde, il y a une seconde chance. Mais dans la suite de notre texte qu'on a lu ce matin, on voit ce même Adonijah hein, qui vient voir la reine-mère. Tiens, encore, on vient décidément voir la reine-mère régulièrement. Elle va servir d'intermédiaire, encore une fois. Il en a gros sur la patate. Vous l'avez peut-être entendu, verset 15. « Tu sais, la royauté aurait dû me revenir. Tout le peuple m'attendait comme le roi, portait le regard sur moi. Mais le pouvoir s'est détourné de moi parce que l'Éternel l'avait donné à Salomon. » Et du coup, on sent une petite manœuvre. « Est-ce que tu voudrais pas demander pour moi, Abisha ?» Donc on retrouve cette dernière femme de David. Et si c'est toi qui parles, il l'acceptera volontiers. Faut savoir que prendre pour femme, dans le contexte de l'époque, la dernière femme, et en plus d'ailleurs on avait lu qu'il n'y avait pas eu de relation intime entre David et cette épouse, c'est comme montrer qu'on est le digne successeur, qu'on est celui que la royauté devait être là. Et Salomon y voit, et est assez clair dans son jeu, il voit qu'il y a une nouvelle tentative de revendiquer le trône, de mettre un peu de flou, de mettre des choses instables, et il n'écoute pas sa mère sur ce côté-là. Et ça coûte la vie à Adonijah. Il a été pris la main dans le sac dans un second complot, en fait, on pourrait dire. Seconde chance. Mais il l'a pas voulu. Et Salomon a préféré agir avec droiture. Pas mettre déjà du compromis et des choses qui vont entacher le témoignage de sa royauté. Seconde chance, on le voit avec Abiathar, hein, que j'évoquais tout à l'heure, qui a été mis en exil. Seconde chance aussi pour Shimei, hein, c'est la dernière portion de notre texte, versets 36 à 46. Shimei n'est pas exécuté. Sur le champ, on lui met un bracelet électronique. Il doit rester à demeure. Et pourtant, c'était une personne horrible quand vous lisez ce qu'il disait à David, comment il maudissait David, comment il avait aucun respect pour Dieu. Salomon lui dit, reste ici, tranquille chez toi. Et il lui annonce, hein, verset 37, sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras. Tu seras toi-même responsable de ta mort. Seconde chance. Et Shimei a répondu, oh non, je suis pas d'accord. Non, il a dit, je suis d'accord. C'est moi, je suis ton serviteur. Je ferai ce que m'a dit mon Seigneur le roi. Obéissance. C'est de son côté. Merci. On voit au chapitre 3 que 3 ans après, il quitte le périmètre. On pourrait se dire pour un truc futile. Salomon le demande qu'il soit mis à mort. Avertissement, seconde chance, puis justice. Il n'a pas pris au sérieux la parole du roi. Il n'a pas pris au sérieux la parole du roi. Prendre au sérieux la parole du roi. Ça nous parle comment aujourd'hui l'autorité parentale, hein, obéit à mes règles ou il y aura des conséquences. Justice au travail, on tolère 2-3 avertissements, puis il y a une sanction. Notre vie, Dieu, nous avertit patiemment, seconde chance, temps de grâce. Mais son trône s'affermira sur la justice. Et enfin, troisième élément, hein, qui montre que Salomon agit avec justice, cela est fait devant l'Éternel. Il y a plusieurs occasions où dans ce texte, on voit qu'il y a l'Éternel qui est pris à partie, il y a Dieu qui affermit. Maintenant, l'Éternel est vivant, vous serez mis à mort. On pourrait penser que Salomon instrumentalise un peu Dieu à des fins politiques, mais on voit qu'il agit et que la parole de Dieu s'accomplit. Ainsi s'accomplit la parole que l'Éternel avait prononcée contre cette famille, par exemple. C'est l'œuvre de Dieu. Je vous ai pas parlé de Joab. C'est aussi étrange, hein. Joab, un homme qui a été cruel, qui a toujours servi ses propres intérêts, il court dans le lieu saint, dans le temple, et il dit, moi, je veux mourir ici. Frappez-moi ici. Je pense pas qu'il voulait dire ça. Je pense qu'il voulait dire, vous n'oserez pas me tuer, je suis dans le temple, parce que je suis allé me réfugier sous la protection de Dieu. Vous n'oserez pas me mettre à mort ici, j'aurai la vie sauve, la grâce. Je ne sais pas si quelqu'un échapperait à la police et qu'il allait à l'église, est-ce qu'il va échapper à la justice? Ne m'arrêtez pas. En fait, c'est quelque part une sorte d'appel à la miséricorde du roi sous le parapluie de Dieu. Mais là, ça marche pas, c'est frappant. L'autel qui est un lieu, l'autel hein, où on fait un sacrifice, c'est un lieu où on appelle à faire grâce, à demander le pardon, où Dieu accepte d'ailleurs le sacrifice pour le pardon, mais l'autel est aussi un lieu où la justice n'échappe pas. Il y a des secondes chances, mais l'autel n'offre pas toujours de secondes chances. Il offre le pardon si vous vous repentez. C'est pas un échappatoire facile. Et Salomon dit, faites comme il le souhaite, frappez-le, et il meurt. Ce geste me fait penser un peu, c'est pas évident, hein, à tous ceux qui, au jour du jugement, vont essayer de se réfugier dans une foi qu'ils n'ont jamais aimée ou jamais pratiquée. Joab a jamais eu la crainte de Dieu, jamais eu la crainte de son roi. Il a fait ce qu'il voulait. Peut-être, moi, je sais pas ce que vous pensez, mais à ces cérémonies d'obsèques qu'on fait dans une église, avec une croix sur le cercueil pour quelqu'un qui n'a jamais écouté Dieu, qui sait même pas le sens de la croix. Comme si on se mettait sous un espèce de parapluie de « allez, je saisis mon baptême » ou « mon conjoint est croyant, ça doit suffire » ou « j'ai un crucifix » ou « je grandis dans une église ». C'est pas ça qui nous fait échapper à la justice de Dieu, à la justice du roi. Toute sa vie, Joab a été calculateur, rusé, assassin. Il n'a pas voulu aimer et suivre Salomon. Et dans un geste désespéré, mais trop tard. Ce n'est pas ça qui le sauve du roi. Et en fait, nous, l'autel, c'est la croix. C'est là que la justice. Il y a la grâce à la croix, mais il y a la justice aussi. C'est là qu'il nous faut fléchir le genou devant le roi et nous aurons la vie sauve. Mais ça révèle l'état de notre cœur. La justice de Dieu s'applique. Et le texte, après toutes ces exécutions, nous dit quoi ? La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Un roi qui a fait retomber la justice sur les hommes. Un roi qui exerce la justice, le trône est solide. Un roi qui obéit et qui juge, son trône est solide. C'est la leçon de 1 roi 2. Dans le Nouveau Testament, Jésus est roi, je l'évoquais tout à l'heure. Et cela va de pair avec cette vérité. Jésus obéit à la parole de Dieu, Jésus exerce sa justice. Quand on lit, quand Jésus viendra instaurer son royaume, cela va de pair avec cette réalité, il détruira ses ennemis. Je le dis en tremblant, hein. C'est un drame. L'exercice de la justice du roi sur les méchants, c'est une bonne chose. Ce n'est ni précipité, ni arbitraire, ni injuste. Il y a eu des avertissements, il y a eu des appels, il y a eu des secondes chances. Mais il y aura un jour, et c'est notre foi hein, chrétienne qui l'affirme, il y aura un jour un jugement contre le mal, contre la méchanceté, contre la rébellion, contre le rejet, contre l'insoumission, et j'en passe. Et c'est ainsi que Dieu établira son royaume, fermement. Ses ennemis ne subsisteront pas à la fin. Salomon avait comme ennemi, on pourrait dire, Adonijah, Joab, Shimei, et ce n'est rien. Jésus a toutes sortes d'ennemis à son autorité. Il a des rois, il a des gouvernements, il y a des professeurs, il y a des religieux, il y a des peuples qui s'opposent à l'autorité de Dieu. Et un jour, la parole de Dieu nous dit, il les vaincra tous. Et ils le sont déjà, quelque part, coupables, s'il n'y a pas de repentance. Et encore une fois, nous devrions voir cela comme une bonne chose. Dieu rendra justice. Et en même temps, il y a une différence. Salomon, il a exercé sa justice, enfin, il est monté sur le trône en exerçant une justice. Comment Jésus est monté sur le trône ? Il n'a pas saisi le royaume par la force. Ce sera la suite. Philippiens 2, c'est un des textes que je préfère. Versets 5 à 11, je le cite simplement, nous dit que Jésus s'est abaissé. Il a eu l'autorité et il s'est abaissé. Il a été serviteur, il a été obéissant et on l'a cloué à la croix. Il a fait tout l'inverse. Et c'est justement à cause de cet abaissement, de cette attitude de serviteur qu'il a été élevé et que son règne a été souverainement affermi et élevé. Waouh ! Contre-pied. Il y a des similitudes, mais il y a aussi des différences. J'aimerais voir quelques applications pour nous, si vous n'en avez pas déjà saisi quelques-unes au passage. Un des éléments, le passé nous rattrape. Le crime, la rébellion ne reste pas impuni. Il peut y avoir un délai entre la faute et la sanction et le verdict, mais la Bible affirme toujours qu'il y aura une justice et un jugement, et une bonne justice et un bon jugement. La désobéissance à Dieu, le rejet de Dieu ne resteront pas sans conséquences. C'est ce que la Bible dit. Et là, c'est le drame. Parce qu'on se dit, bon, voilà. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a touché quand j'étais jeune et qui m'a fait ouvrir les yeux sur la croix. Le drame, c'est que la Bible dit, dans Romains, que tous, toi, moi, on est tous coupables. Tous coupables. Notre rébellion, on est tous coupables. On est tous sous le poids de la condamnation. On est tous sous le jugement de Dieu. On est tous sous la colère du roi des rois. Pas un seul homme n'échappe. Je suis pas un Adonijah, je suis pas un Joab, mais mon obéissance à Dieu, elle est imparfaite. Et ma petite obéissance ne me sauve pas de cette justice parfaite de Dieu. Mais, voici la bonne nouvelle. Notre rébellion a frappé le Christ. Est tombée sur Christ. Christ est mort. Et c'est là qu'il y a une injustice. Là, c'est choquant. Là, c'est dérangeant. Le seul juste, celui qui a parfaitement obéi, a subi la condamnation de tous les coupables, de chacun de nous. Là, on est dans le sens de ce texte. Lui, l'innocent, pour que nous puissions être déclarés justes. Nos crimes n'ont pas été laissés impunis. On n'a pas fermé les yeux. Dieu a exercé sa justice en mettant à mort son propre fils. La justice de Dieu a été exercée à la croix et le trône a été établi à ce moment-là, l'hérité de Dieu. David, pardon, est affermi. Là, c'est un appel, hein, quelque part. En tant qu'ennemi de Jésus, on n'est pas en sécurité. Vous ne le serez pas même au jour du jugement, à la dernière minute, si vous tentez de vous accrocher désespérément quelque part. La miséricorde, la grâce, c'est une seconde chance, elle est offerte maintenant. Mais un jour, il sera peut-être trop tard. Ne mettez pas de côté cet aspect-là du jugement. Ses ennemis ne subsisteront pas. On pourrait peut-être lever le poing vers Dieu et dire « Tu es un tyran, tu me juges sans cœur, ta justice, elle est disproportionnée. » Non, on le sait, la parole de Dieu nous montre qu'on a un roi, un Dieu qui est parfait, saint, juste, équitable. Si on est chrétien, le jugement de Dieu ne devrait pas nous mettre mal à l'aise. On le sait, le royaume de Dieu sera parfaitement établi. Non pas parce que j'aurai eu une vie droite, mais parce que le sang de Christ aura suffi. Et c'est une bonne chose. Je termine encore avec une petite illustration. Il y a quelques années, dans une revue étudiante aux États-Unis, un article critiquait les chrétiens qui parlaient d'un Dieu qui envoie les gens en enfer. Et un Dieu qui exerce la justice. On disait, c'est terrible, c'est rétrograde, c'est sans amour, etc. La semaine suivante, dans la rubrique courrier des lecteurs, un chrétien répond. Cher rédacteur, dans le laboratoire où je travaille, il y a une armoire avec une pancarte qui indique 415 volts, danger de mort, entrée interdite. À ma connaissance, personne ne s'est jamais fâché contre la personne qui a affiché cette pancarte, ni ne l'a accusé de semer la panique, d'être tyrannique ou quoi que ce soit d'autre. Il sait qu'il y a un danger réel et il prévient par souci du bien des autres. C'est exactement cela avec le texte de ce matin. Il y a un jugement, s'il y a une justice de Dieu, si elle est réelle et imminente, c'est une grande bonté, c'est une grande grâce d'en être averti aujourd'hui. Danger, 415 volts. Si vous êtes l'ennemi du roi des rois, danger, vous ne survivrez pas. Si vous êtes chrétien, réjouissons-nous. N'ayons pas honte de cet avertissement, mais réjouissons-nous de la justice parfaite du Messie. Frères et sœurs, le trône de Salomon s'affermit par l'obéissance et la justice que Jésus a accompli parfaitement. Aujourd'hui, alors qu'il en est encore temps, soumettons-nous au roi des rois, car son trône sera éternel. Amen.